Bonjour et bienvenue sur ce podcast de Paulo Grobel dédié à l'altitude et cette fois plus particulièrement à la progression continue et à la slow attitude. Alors je vais vous raconter la genèse de cette nouvelle manière de progresser en Himalaya. Nouvelle manière, en fait ça fait depuis longtemps que j'expérimente cette manière. Alors en haute altitude, on vit des situations d'une rare intensité, à la fois individuellement, encordé, en groupe et aussi avec les Népalais. Et dans la manière d'aborder ces géants, plusieurs stratégies de déplacement sont possibles, en une progression continue ou avec des allers-retours au camp de base. Alors je voudrais aborder plus particulièrement la spécificité de la progression continue, tant elle est pour mes compagnons d'ascension rassurante et pour moi source aussi de plaisir. Alors dans le cadre d'une progression continue, les nécessités d'un faire ensemble imposent un bouleversement de l'ensemble de la chaîne organisationnelle, de la logistique, des compétences de management, comme de l'adhésion des participants. Et c'est en ça que c'est un changement de paradigme de nouveau. Alors c'est une progression qui bouscule radicalement l'himalayisme d'aujourd'hui et qui propose des expériences de vie et des sujets d'études passionnantes avec des enjeux conjugués de sécurité et de plaisir. Et on reviendra souvent sur cette notion de sécurité et de plaisir. Alors voilà, premier chapitre, la technique himalayenne, c'est une référence un peu lourde. On parle souvent de stratégie lourde. Et pour moi, c'est pire que ça, parce que ça me semble être accidentogène. Alors, en Himalaya, aujourd'hui, la grande majorité des expéditions utilisent un style de progression que je nomme en dents de scie. En fait, à partir d'un camp de base, l'équipe népalaise installe des camps d'altitude qui sont utilisés par les alpinistes clients avec plusieurs allers-retours pendant la période d'acclimatation. Alors, ensuite, quand tous les camps sont installés et ravitaillés, pendant que ces camps sont installés, les alpinistes ils attendent tranquillement au camp de base le bon créneau météorologique. Et le sommet est tenté en une incursion en altitude la plus courte possible. Alors, grâce à la météo, le problème aussi, c'est qu'on retrouve tout le monde qui essaie ou qui part pour le sommet quasi à la même date. D'où les embouteillages qu'on a vus à l'Everest. Alors, cette stratégie, elle est surtout génératrice de traumatismes physiques et psychologiques, tout simplement parce à cause des sollicitations importantes de l'organisme, à cause des changements d'altitude. La différence d'altitude entre chaque camp, elle est vraiment importante, de 800 à 1000 mètres. Alors pourquoi ? Simplement pour en installer le moins possible et réduire le coût et les efforts d'équipement de la montagne. Et pour le leader, c'est un casse-tête parce que l'éparpillement des alpinistes sur la montagne pose des problèmes de gestion de groupe en termes de sécurité, de contact, d'isolement, de prise de décision. Et en fait, surtout aussi en quantité de matériel. En fait, il faut un jeu de tentes par camp. Donc si vous avez 4 camps, si vous êtes X tentes, c'est X par 4. Et donc ça implique de gros efforts de portage par l'équipe népalaise, et puis après une gestion désastreuse des poubelles. Et pourtant, c'est la progression de référence et la plus utilisée, et en particulier pour les expéditions commerciales qui sont encadrées par des guides, alors qu'ils soient occidentaux ou népalais. Et toute la littérature himalayenne est imprégnée de cette notion de souffrance. Et alors au point que notre imaginaire himalayen, il est imprégné de tout ça. Alors, parlons un peu de l'émergence de nouvelles stratégies. Il y a déjà quelques temps, constatant que ces nombreux allers-retours entre les camps de base et les camps d'altitude étaient traumatisants pour leurs clients, certains guides ont imaginé d'autres manières d'aborder les ascensions en Himalaya. Alors, dans les années 90, un guide de haute montagne française qui habite dans la région de Thonon, Jean-Pierre Bernard, a proposé la méthode par palier. En fait, l'idée, c'est de faire progresser son rythme au même groupe, au même rythme, sans redescendre au camp de base. Et il l'a testé avec succès au Kun, en Inde, au Denali et au Kangtangri, dans les Pamirs. Alors, en 90, avec ses clients, il a atteint les 7050 mètres du Shishapangma. au 20e jour d'ascension seulement. Et en fait, son objectif principal était de diminuer la durée de l'expédition. Alors, quelques années plus tard, en préparant cette ascension du Shishapangma, en fait, je vais m'inspirer de cette méthode par palier et étudier comment Jean-Pierre avait fait, mais avec une toute autre intention radicalement différente. Pour moi, il s'agissait d'aller doucement pour s'acclimater le mieux possible à l'environnement hypoxique. Alors, d'où était venue cette idée? Eh bien, en fait, j'avais vécu l'année précédente un déclic radical au Ninxing Kangsang. C'est un 7000 proche de Lhasa. Et en fait, ça a été une expérimentation presque par hasard. Alors, comme on dit, à l'insu de notre plein gré. Donc, ça se passe au Ninxing Kangsang et on est en 2006, il y a presque 15 ans. Alors en fait, ce printemps-là, ben, non, c'était à l'automne. En fait, la mousson a plutôt continué à déborder. Et en fait, il a fait mauvais en ce début d'automne, avec des éclaircies qui étaient rares et courtes, avec beaucoup d'orages, voilà. Et en fait, progresser en altitude, c'était un vrai casse-tête, parce que les durées de progression étaient très courtes. Et pourtant, eh ben, à notre grande surprise, on a atteint le sommet presque facilement, en progressant de manière continue, parce qu'on a doublé le nombre de camps pour profiter des rares accalmies, sans redescendre, et nous sommes tous arrivés au sommet ben, le premier jour de beau temps, et surtout en pleine forme. Pour moi, ça a été une première expérience d'une progression continue. Alors cette expédition au Ninxing, elle m'a fait basculer radicalement dans un autre monde. Elle m'a obligé à repenser mon accompagnement en haute altitude, parce que cette expérience montrait qu'il était possible de vivre en altitude, entre 6000 et 7000 mètres. Et surtout, d'y séjourner pour une durée importante, sans forcément souffrir, ni rencontrer de difficultés particulières. Et la manière de progresser, donc de manière continue, semblait un facteur déterminant. Alors bien sûr, si cette analyse elle paraît évidente pour moi aujourd'hui, ben, à cette période-là, elle n'en demeurait pas moins à contre-courant de toutes les expéditions en Himalaya, qui étaient organisées sur le mode de l'incursion, vite en haut, vite en bas, pour ne surtout pas séjourner en altitude. Alors donc l'année suivante, à ce Shishapangma, nous voici partis sans ox, sans corde fixe, pas de porteur d'altitude. Et cette expérience, cette expédition, elle a confirmé plusieurs idées. Un, la principale, il est possible de vivre longtemps en haute altitude, même pour l'ascension d'un 8000, et que ce séjour en altitude, il est source de plaisir, et sans problème de même particulier. Et par contre, cela nécessite des efforts calibrés et limités pour faciliter l'acclimatation. Alors ça signifie pas trop d'efforts dans la journée, donc c'est 4 à 6 heures d'efforts, et le reste du temps, il est consacré à la récupération. En dénivelé, ça représente 500 et 800 mètres de montée, mais pas plus. Et surtout, le poids du sac à dos, il est limité et il est calibré, mais surtout, il est contrôlé, c'est-à-dire 12 à 14 kilos, puis plus on monte, de moins en moins, jusqu'à 10 kilos. Et en fait, c'est le début de l'utilisation pour moi systématique d'un peson, au camp de base, mais aussi à tous les camps d'altitude durant l'ascension. Et au final, ce fut vraiment une très belle expé. On a fait vraiment du très beau ski et tous mes compagnons ont atteint le sommet. Voilà. Et donc là, l'idée au Sisha, c'était d'utiliser des skis, mais pas de porteur d'altitude. Donc voilà, c'était vraiment très particulier. Alors une anecdote, lorsque nous sommes partis du camp de base avec notre maison sur le dos, nous avons salué une dernière fois notre cuisinier, et puis, tiens, c'était le père de Razan, et en lui donnant rendez-vous 15 jours plus tard. En fait, il a éclaté de rire en nous serrant la main, en disant « No problem, tomorrow is better ». Et en fait, comme beaucoup d'autres, il ne croyait pas une seconde à notre technique de progression. Et puis en fait, nous l'avons retrouvé 16 jours après, le sommet en poche, et à la surprise générale des alpinistes présents au camp de base. Et surtout, le taux de notre réussite était particulièrement important. Voilà, alors ces deux succès, ils m'ont permis de radicalement remettre en question une idée reçue centrale de la pratique himalayenne, qui existe encore aujourd'hui, et qui est énoncée par l'ensemble du corps médical et scientifique, qui est « il est impossible pour l'homme de vivre en haute altitude ». Alors en fait, c'est une phrase à la fois vraie et à la fois fausse, et c'est ça qui pose un peu problème. Parce qu'en fait, tout dépend de la durée du séjour, et surtout de l'état physique et mental des alpinistes. Et ça, c'est deux notions, moi plutôt trois, sur lesquelles on peut jouer. Alors d'un autre côté, il est aussi nécessaire d'écouter les recommandations des médecins. Alors, depuis toujours, les médecins spécialistes de l'altitude, ils préconisent de limiter à 400, 300, 400 mètres le dénivelé entre deux nuits consécutives au-dessus de 3000 mètres. Et puis de s'arrêter tous les 1000 mètres au moins un jour de repos. Mais en fait, aucune équipe ne respecte cette règle simple. Bah parce qu'elle est trop contraignante. Et surtout, elle est en contradiction avec ce que font les Népalais. Et en fait, c'est justement ce qui est fait dans le cadre d'une progression douce. On reste sur ces critères-là. Et ça permet au corps humain de s'adapter aux contraintes de l'altitude avec une gestion raisonnée de l'effort, tout en gardant du temps dans la journée pour se réhydrater, pour se reposer et pour être ensemble. Et dans le cadre du groupe, chacun prend la mesure des contraintes de l'altitude en ayant du temps pour apprendre à y répondre et pour y trouver du plaisir et plus de réussite. Alors concrètement, comment ça se passe? Monter en autonomie complète depuis le camp de base signifie que l'équipe progresse vers le sommet en se déplaçant de camp en camp, sans redescendre au camp de base. Par contre, ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas d'aller-retour, mais les allers-retours sont simplement d'un camp à l'autre, sont plutôt petits. Alors plusieurs sommets, dont 2 7000 en Inde, seront gravis comme ça. Alors c'est des noms imprononçables, le Chongkungdang et le Mamotsangri. Alors ça, c'était des ascensions très engagées, et c'était au mois d'août, et surtout, c'était des ascensions très loin où il fallait être très autonome pendant très longtemps. Ensuite, on a gravi d'autres sommets, comme le Gur Karpuri, qui était aussi une belle réussite, et puis le Manaslu ou l'Imlung, qui va devenir le sommet le plus fréquenté du Népal. Alors, en 2008, alors c'est l'histoire avec François Damilano. Il a été séduit par la réflexion, la remise en question de cette espèce d'establishment des expéditions, et puis par mes expériences précédentes. Et donc François, qui est également guide de haute montagne et cinéaste, va m'accompagner pour gravir la Puttayunchuli. Ça, c'est un sommet de 7250 mètres, relativement facile. Alors c'est un sommet du Dolpo qui est un peu compliqué pour aller en termes de logistique. Alors c'était surtout le premier 7000 pour l'ensemble de nos clients. Alors la voie est techniquement simple, mais en fait gravir un 7000 c'est jamais une entreprise facile, il faut surtout pas l'oublier. Alors nous avons été radicalement comblés. Être tous ensemble, réunis le même jour au sommet, c'est une super réussite. Et nous avons tous vécu, et non pas survécu, 10 jours en autonomie complète, en haute altitude, avec un plaisir rarement éprouvé sur un sommet himalayen. Alors François, il va réaliser un film sur cette ascension atypique, qui sera beaucoup diffusé et marquera vraiment les esprits. Alors après on va faire plusieurs articles dans les revues spécialisées, et en particulier un reportage sur le Manaslu en progression douce. Va être partagé par Pels dans son catalogue de matériel. Alors, au sujet du faire ensemble. Alors, la difficulté de vivre en haute altitude est bien réelle. Ça, c'est évident. C'est loin d'être facile. Mais cette obligation de faire ensemble, elle représente vraiment le challenge de l'expédition. Et c'est ce qu'on a de nouveau réussi au Manaslu. Parce que rester ensemble, c'est être solidaire. Et c'est un facteur de sécurité, un confort moral dans un environnement qui est superbe, mais qui est radicalement inconfortable et dangereux. Alors, au Manaslu, il faut savoir qu'en fait, ouais, à un moment donné, on était au camp 6 et ben on voilà, mon ange gardien, Yann, il m'a au téléphone, il m'a prévenu, ouais, attention Polo, vous allez avoir 3 jours de neige et ça on va en mettre presque 2 mètres. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Et en fait, on s'est posé, on s'est protégé, et on a attendu. Et là aussi, hein, cette notion de faire ensemble était vraiment une très belle expérience. Alors, faire ensemble, c'est aussi pour progresser encordé, plutôt que sur des cordes fixes, et chacun pour soi. Et là, on retrouve des caractéristiques de l'himalayisme d'aujourd'hui, cette espèce de chacun pour soi, là, qui est dramatique. Alors, être ensemble, ça crée du lien, et ça donne un sens particulier à l'himalayisme, qui est vraiment très proche des aventures vécues dans les Alpes. Et c'est aussi une manière de refuser ce dopage systématique par l'utilisation de l'oxygène. Et après, la cordée, eh ben, elle se prolonge le soir. Parce qu'il faut s'organiser pour faire fondre la neige, il faut cuisiner, il faut organiser une vraie vie en altitude. Et c'est ça la différence. Arriver à vivre le mieux possible plutôt que de survivre. Et en fait, c'est un voyage en montagne plutôt qu'un aller-retour. C'est une immersion plutôt qu'une incursion. Alors, limiter les efforts journaliers à 4-5 mètres de déplacement, réduire la distance des étapes, augmenter le nombre de camps, ça révolutionne radicalement la pratique himalayenne. Et ça change la philosophie de l'expédition. Et un peu, c'est comme partir en haute mer pour une traversée, plutôt que de faire du cabotage, et qui passera ou non par le sommet. Et puis après, bien plus tard, pour revenir au port. Et ce départ symbolique du camp de base, il oblige à reconsidérer le moindre de nos actes pour donner le maximum d'attention à la préparation. C'est prévoir la nourriture au plus juste pour mieux vivre ce qui va s'apparenter à un voyage en altitude. Alors de nouveau, des outils comme la télémédecine, comme les prévisions météorologiques avec le téléphone satellite permettent vraiment d'améliorer la gestion de ces voyages en altitude. Et ça permet surtout de profiter du temps passé là-haut et de gérer les aspects sécurité. Après bien des années, donc on se retrouve avec la stratégie de l'escargot, la progression douce, la slow expédition, la progression continue. Bon, il y a beaucoup de noms comme ça qui cohabitent et voilà. Et donc c'était un peu compliqué. Et pourtant, dès le début de cette réflexion sur ces ascensions himalayennes, on a beaucoup réfléchi comment on allait appeler cette nouvelle progression. Alors, de nouveau, au printemps 2007, vous vous souvenez, on avait utilisé le nom que Jean-Pierre Bernard avait choisi, la progression par palier. Et puis, en fait, très rapidement, il nous a semblé que c'était nécessaire d'exprimer nos différences, la spécificité, cette attention à notre manière de faire. Alors, l'équipe de Jean-Pierre, elle a progressé à pied en utilisant des mini poulkas pour transporter le matériel et les vivres nécessaires à la durée de son voyage. Alors, donc, sans aller-retour entre les camps et avec comme objectif de réaliser le sommet en un minimum de temps. Alors, sa technique, elle se rapprochait plutôt de celle des expéditions polaires. Et c'est logique puisque les années d'avant, il avait été au Denali. Alors de notre côté, on était dans un autre registre. On a progressé à ski et puis on n'a pas pris de poulka. On a porté nos affaires sur le dos de manière continue. Alors on n'est jamais retourné jusqu'en bas, jusqu'au camp de base. On a fait simplement des allers-retours entre les camps d'altitude. En fait, souvent les gens ils oublient cette petite notion. Ils oublient cette notion que pour passer d'un camp à un autre, il nous faut 2 jours. Ou des fois 2 jours et demi. Alors en fait, on avait commencé à calibrer la charge entre 12 et 15 kilos, et donc il nous fallait un ou deux trajets de portage pour installer nos camps. Et après, on a essayé de respecter les recommandations du monde médical en diminuant la différence d'altitude. Alors après, 300, c'était un peu, on était plutôt à 400. Et là, quand on compare à la fois l'expérience de Jean-Pierre et la nôtre, et bien en fait, les deux équipes avaient pas de porteur d'altitude. Et en fait, ça, c'est vraiment important et remarquable pour une pratique encadrée sur un 8000. Aujourd'hui, vous allez peu trouver de propositions de ce type-là. Voilà, tout le monde est assisté de manière importante pour le portage. Et ce qui est un peu logique, bien évidemment. Mais bon, là, je trouve qu'on avait vraiment fait fort. Alors après, donc il fallait trouver un autre nom. Et donc, en fait, on a plutôt appelé ça la progression douce. Parce que c'était l'histoire d'aller doucement. Et alors, il s'agissait en fait d'exprimer un choix de vie et un choix de déplacement, ouais, qui était un peu particulier. C'était une immersion. Alors après, la progression douce, elle a marqué une vraie rupture par rapport à cette logique des ascensions. Et après cette forme de pratique, pourtant, donc des expéditions classiques, elles restent encore largement majoritaires aujourd'hui. Mais en fait, avec ce nom de progression douce, on n'a pas réussi à expliquer ce qu'on faisait. Et en fait, on s'est heurté rapidement à la difficulté de le traduire en anglais pour témoigner de notre expérience dans cette communauté internationale des alpinistes. Et voilà, pour écrire, pour faire des films, ouais, voilà, progression douce, ça veut rien dire. C'est pas très facile à comprendre. Et donc après, en fait, j'ai continué cette expérimentation. Je ne peux plus faire autrement que de progresser en progression douce. Même si quelqu'un, une équipe me demande, tiens Polo, on va aller faire une expé, est-ce qu'on pourrait faire ensemble et en progression classique? Non, c'est pas possible. J'aurais vraiment pas envie. Alors après, donc vous vous souvenez, en 2008, c'est l'expédition à la Punta Uchulí, c'est le film sur la progression douce, donc filmé par François. Et donc, c'est une très belle expé qui est marquée par une réussite rare. Hein. On est tous ensemble au sommet. Et vraiment, ça, c'est très difficile à réaliser. Hein. Et le nom que François a choisi pour son film, La stratégie de l'escargot, il voulait exprimer cette notion de l'autonomie, de transporter notre maison sur le dos. Après, c'était aussi une forme de boutade hein, qui a... Alors, en fait, elle a durablement marqué les esprits. Mais après... aussi provoquer des rejets, ouais, de la dérision et du dénigrement. Et surtout, c'était un peu aggravé par un côté résolument en dehors du champ sportif de l'exploit, et qui caractérise les himalayanistes d'aujourd'hui et puis de ce moment-là. Voilà, quand on va sur un 8000, on reste un exploit. Bon, aujourd'hui, ça a un peu changé, hein, maintenant que l'autre gaillard, il les a tous réussis en une année, difficile de dire que c'est des gros morceaux. Mais c'est quand même pas facile d'aller sur des grands sommets. Alors, depuis ce jour-là, la progression douce, elle est devenue, pour tout le monde, la stratégie de l'escargot. Alors bon, ça me fait sourire, mais pourquoi pas, parce que cette notion, elle est importante. Mais juste après, en fait, j'ai lu un article, L'éloge de la lenteur, qui était presque le manifeste d'un mouvement philosophique mondial de la slow attitude. Et en fait, ça m'a permis de mettre d'autres mots sur cette pratique et de voir qu'elle n'était pas isolée dans un espèce de délire personnel, mais qu'on pouvait la rapprocher d'une philosophie globale et qui touchait beaucoup d'autres activités. Il faut savoir qu'en fait, la slow attitude, ça vient aussi, ça vient surtout du fast-food. Et donc, c'était une réaction à cette malbouffe. Et donc, la meilleure manière de s'alimenter, c'est cette slow attitude dans la nourriture et puis aussi dans la musique. Voilà. Alors, voilà. Donc, en fait, notre sympathique gastéropode himalayen, il a quitté le monde de l'exploit sportif pour rejoindre celui de la psycho et du développement personnel. Alors, il a fait un sacré bond en avant. Hein. Et puis, donc, voilà, donc la stratégie de l'escargot, pour moi, elle s'est transformée en slow expédition. Donc sur mon site, on retrouve cette notion. Et ça voulait exprimer la notion de progression douce pour lui donner encore plus de sens. Et aussi, voilà, après une réflexion sur la catégorisation, ça m'a permis aussi de relativiser tous ces dénominations, hein. En fait, c'est important, mais pas tant que ça. Mais pourtant, c'est nécessaire de trouver la bonne formule pour exprimer au plus juste ce que nous vivons. Alors après, en 2015 et en 2006, surtout avec les expéditions à Lim Lung, où on a côtoyé d'autres expéditions au camp de base et puis durant l'ascension, notre progression là, elle a été un peu, elle a provoqué à la fois de la surprise, les gens étaient surpris de nous voir progresser comme ça, ne pas redescendre, mais aussi de la tension avec les équipes népalaises. Et en fait, il est apparu le mot polo style. Ah ouais, qu'est-ce que vous faites? Oh bah nous on est en polo style, on redescend pas, voilà. Bon, ils sont un peu barges, mais ils font comme ça. Bon. Mais en fait, moi, ça m'intéresse pas du tout d'associer mon nom à cette affaire. Et donc, c'est pour ça que j'ai essayé de trouver un autre nom. Et donc, la Slow Expedition, elle est devenue maintenant la progression continue. Et principalement, parce que ça a permis de traduire ce terme en Continue Style, et en anglais, népali bricolé. Et en fait, pour les Népalais, c'est bien le caractère continu qui est directement visible et qui marque la différence. C'est ça qui fait sens. Et puis, après, tant pis si au passage la notion philosophique de la slow attitude, elle est un peu écartée. Mais en fait, de toute manière, elle a peu d'écho dans l'univers, dans le questionnement, ou même dans les représentations des Népalais, ou même dans les valeurs véhiculées par les autres experts, toutes nationalités confondues, hein. C'est un peu brut de décoffrage, quoi. Voilà. Donc en fait, à la notion de progression continue, il suffit d'ajouter une petite dénomination complémentaire pour qualifier la manière de faire et pour se revendiquer, entre guillemets, de tel ou tel mouvement. Alors ça peut être speed ou slow, ou light ou lourd, voilà. Et en fait, ce changement de nom, c'est une volonté de simplification de la dénomination. Et surtout, ça permet de définir clairement le choix que l'on a dans les techniques de progression en Himalaya. Alors d'un côté, vous avez la progression en dents de scie, voilà, c'est la technique himalayenne, ou lourde, avec la nécessité d'installer les camps au préalable. Et puis de l'autre, vous avez une progression continue, qui est forcément plus légère, et qui utilise un seul jeu de tente pour progresser, avec de courts allers-retours. Alors après, l'objectif, il était de pouvoir qualifier et parler clairement des différents niveaux de pratique. Par exemple, entre le haut niveau et l'alpiniste ordinaire, entre les professionnels ou les amateurs. Et en fait, surtout de faciliter un rapprochement, parce qu'entre le haut niveau et les experts que je propose, eh ben, il y a des choses en commun. C'est cette progression continue. On progresse de la même manière. Et avec la même attention à nos manières de faire. Alors aujourd'hui, ouais, toutes les expéditions que j'organise, ils se revendiquent un peu de cette, ils se revendiquent radicalement de notre expérience alpine dans les Alpes, et ça valorise à la fois la progression continue et la progression encordée. Et puis après, la notion de progression douce, de slow attitude, c'est un concept philosophique qui complète cette qualification. Où là, on est dans l'attention quotidienne, maximale, à tous les détails qui constituent notre manière de nous déplacer. Et c'est une autre manière de faire. Alors, on pourrait faire une remarque aussi. En fait, quand on parle de technique alpine, la technique alpine, c'est une progression continue sans aucun aller-retour, donc la technique alpine pure. Et en fait, c'est une forme beaucoup plus exigeante et elle est surtout associée à des terrains beaucoup plus difficiles. Puis après, même si parfois quelques longueurs sont fixées, hein, mais bon, ça c'est des détails de spécialistes. Alors après, pour pas conclure, qu'est-ce que je pourrais dire? Qu'au printemps 2017, Ouais, il y a une autre forme de réflexion qui se met en place. Alors, c'est la cinquième fois que je vais partir vers Lim Lung. Et puis, en fait, j'y vais surtout, voilà, de manière, avec beaucoup de plaisir. Alors après, ça peut paraître étrange, hein, parce que ma signature himalayenne, c'est plutôt l'exploration, la découverte des nouveaux itinéraires, voilà, une espèce de décryptage culturel et géographique. Alors retourner plusieurs fois sur le même sommet, d'habitude, je fais jamais ça, pas dans la même région. Et puis, mais on peut dire que retourner quand même sur le même sommet, c'est également une forme d'exploration. En fait, c'est un questionnement, c'est une recherche. Et en fait, c'est un espèce de processus pour approfondir des compétences. Et en fait, pour moi, ça m'a permis de me concentrer sur un sujet précis durant le temps de l'expédition, et en connaissant mieux le terrain, de porter mon attention sur la manière de nous acclimater, sur la manière dont les équipes népalaises vont aller pouvoir nous suivre. Et en fait, en ce printemps 2017, on y retourne pour expérimenter une traversée d'un grand sommet à plus de 7000. Et avec une équipe d'alpinisme amateur, je vais pas dire du dimanche, mais voilà, c'est un peu ça. On est des alpinistes ordinaires et dans le cadre d'une expédition encadrée. Alors ça, c'est pour pas dire commercial, hein. Alors après, on y retourne aussi avec nos compagnons népalais. Et parce que eux, ils vont être guides un jour, ils vont me remplacer, ils vont nous remplacer. Et en fait, il faut qu'ils arrivent à bien comprendre cette expérience et pour pouvoir la partager après. Et l'histoire de cette traversée, c'est aussi l'expression que, en fait, quelque part, on a fait, non pas le tour, mais on a suffisamment expérimenté cette progression continue pour qu'elle puisse nous permettre de traverser complètement un sommet pour basculer sur l'autre côté et d'imaginer faire quelque chose qui représente en termes alpinistiques une superbe réalisation, hein. L'arête magique sur le Nanga Parbat, c'est radicalement exceptionnel. Voilà. Après, sur Lim Lung, je vais y retourner en 2019. On va continuer à documenter toutes les informations nécessaires pour que les Népalais puissent encadrer cette expédition le mieux possible. Alors après, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui de cette réflexion sur la progression continue et la philosophie de la slow expedition? Et surtout, qu'est-ce qui va se passer quand la majorité des ascensions va être encadrée par des Népalais? Et en fait, c'est toute la difficulté de passer de la phase de l'exploration à celle de l'exploitation. Et dans les sciences du management de l'innovation, on parle d'ambidextrie. Et en fait, c'est la difficulté d'engendrer du nouveau dans nos process tout en gérant l'existant. Et en fait, ça explique un peu la situation actuelle. Comment dépasser le stade de l'exploration d'une stratégie de progression pour passer à une phase de mise en œuvre naturelle? Et c'est mal barré. Alors voilà, avec deux exemples. Par exemple, on peut réfléchir à quelle est la formation initiale des guides français sur ce sujet dans leur stage de guide et d'aspi. Alors bien sûr, le sujet des expéditions, il est peanuts dans le contenu, mais quand même. Et puis après, on pourrait aussi réfléchir à quelles sont les compétences des formateurs, des guides népalais UIAGM dans leur formation népalaise. Alors, ils étaient ces formateurs qui étaient précédemment français, puis suisses, et actuellement népalais. Et ben, en manière de progression continue, avec un groupe d'alpinistes amateurs ou de clients, personnellement, je pense qu'ils n'ont aucune expérience. Donc comment penser qu'ils ont pu exprimer la réalité d'une progression continue? Alors après, sur le terrain, le constat il est simple. Quasi personne. Pour dire plus, c'est aucune expédition, aucune agence ne met en œuvre une progression continue. Et pire encore, si vous le faites. C'est-à-dire, nous, voilà, quand on se retrouve dans un camp de base avec d'autres agences, d'autres guides, vous êtes hors normes. Et c'est vous qui devez justifier votre manière de faire. D'ailleurs, la même chose pour une non-utilisation de l'ox. Si vous n'utilisez pas de l'oxygène, il faut que vous justifiez pourquoi vous ne l'utilisez pas. C'est radicalement le monde à l'envers. Et surtout avec des équipes qui sont pas encordées, tout n'importe comment. Bon, bref, c'est vraiment la catastrophe. Et après, eh ben surtout, aucun guide népalais n'est informé et encore moins formé sur pourquoi et sur comment on met en œuvre cette progression continue avec des clients. Donc les clients, c'est nous, c'est vous. Et concrètement, ça veut dire, ben voilà, quel type de tente il faut choisir pour vivre en haute altitude, comment mieux gérer la nourriture, quelles sont les logiques d'autonomie des décordés, etc., etc. Alors, quelle est l'ultime stratégie de changement? Eh ben, ça serait d'augmenter l'information, la formation disponible auprès des alpinistes occidentaux pour que ce soit eux-mêmes qui soient un moteur de changement, en étant plus exigeant dans les demandes de prestations d'encadrement et de logistique avec les agences népalaises. Alors bon, ça c'est pour rester un peu positif dans la conclusion, parce que sincèrement, j'ai bien du mal à y croire moi-même. Hein. Et pourquoi? Le rouleau compresseur de la marchandisation de la montagne sur les très hauts sommets, c'est-à-dire toute la dérive qu'on voit sur l'Everest, elle se diffuse sur les autres sommets. Et donc on est dans une marchandisation de la montagne, avec du profit, de la rentabilité maximum, et ça fait partie de la réalité actuelle au Népal. Et c'est au détriment des alpinistes que nous sommes et de la qualité de nos ascensions. Alors après, il faut bien dire que l'himalayisme, c'est quand même une activité un peu confidentielle et voilà, c'est un microcosme. Et donc, pour conclure, je peux que vous inviter à explorer par vous-même en haute altitude cette expérience de la progression continue et de la slow attitude. Et puis, je me sentirai moins seul déjà. Et puis surtout, bon voyage en altitude et beaucoup de plaisir surtout au pays de l'oxygène rare. À bientôt.